Chapitre 10. Charlemagne et ses guerres. Les plus judicieux esprits sont quelquefois dominés par la tradition et l'habitude, bien plus qu'éclairés par la réflexion et l'expérience. Pépin le Bref commit en mourant la même faute qu'avait commise Charles Martel, son père. Il partagea ses états entre ses deux fils, Charles et Carloman, détruisant ainsi de nouveau cette unité de la monarchie gallo-franque qu'ils avaient eue, son père et lui, si grand-peine à établir. Mais ainsi qu'il était déjà arrivé en 746, par l'abdication du frère de Pépin, les événements se chargèrent de réparer la faute des hommes. Après la mort de Pépin, et malgré celle du duc de Vèffre, l'insurrection recommença dans l'Aquitaine. Le vieux duc Hunald sortit de son monastère de l'île de Ré pour tenter de ressaisir le pouvoir et l'indépendance. Charles et Carloman marchèrent contre lui, mais dans la route, Carloman, jaloux et étourdi, se brouilla avec son frère et quitta brusquement l'expédition en emmenant ses troupes. Charles fut obligé de la poursuivre seul, ce qu'il fit avec un plein succès. Cette première campagne terminée, la veuve de Pépin, la reine-mère Berthe, réconcilia ses deux fils. Mais un incident inattendu, la mort de Carloman, survenue 2 ans après, en 771, rétablit l'unité plus sûrement que la réconciliation n'eût rétabli la concorde. Quoique Carloman laissât des fils, les grands états, laïcs ou ecclésiastiques, se réunirent à Corbeny entre Laon et Reims et proclamèrent à sa place son frère Charles, et qui devint ainsi seul roi de la monarchie gallo-franco-germanique. Et comme les ambitions et les mœurs étaient devenues moins féroces que sous les Mérovingiens, les fils de Carloman ne furent ni égorgés, ni tonsurés, ni même enfermés dans un monastère. Ils se retirèrent avec leur mère, Gerberge, à la cour de Didier, roi des Lombards. Le roi Charles, dit Eginhard, prit en patience leur départ, qu'il regarda comme sans importance. Ainsi commença le règne de Charlemagne. Le caractère original et dominant du héros de ce règne, ce qui lui a valu et lui maintient dans le monde depuis plus de 10 siècles le nom de grand, c'est la puissante variété de ses ambitions, de ses facultés et de ses œuvres. Charlemagne a aspiré et atteint à toutes les grandeurs, la grandeur militaire, la grandeur politique, la grandeur intellectuelle. Il a été un habile guerrier, un législateur actif, un héros poétique, et il a déployé tous ses mérites dans un temps de barbarie générale et monotone où, sauf dans l'Église, les esprits étaient inertes et stériles. Les hommes peu nombreux qui se sont fait un nom à cette époque se sont ralliés autour de Charlemagne et développés sous son patronage. Pour le bien connaître et l'apprécier avec justice, il faut le considérer sous ses divers et grands aspects, au dehors et au dedans de ses états, dans ses guerres et dans son gouvernement. J'ai donné dans mon cours sur l'histoire de la civilisation en France un tableau des guerres de Charlemagne, de ses nombreuses et diverses expéditions en Germanie, en Italie, en Espagne, dans tous les pays qui devinrent son empire. Je résume ici ce tableau. De l'an 769 à l'an 813, en Germanie et dans l'Europe occidentale et septentrionale, Charlemagne fit 31 campagnes contre les Saxons, les Frisons, les Bavarois, les Avars, les Slaves et les Danois. En Italie, 5 campagnes contre les Lombards. En Espagne, en Corse et en Sardaigne, 12 contre les Arabes, 2 contre les Grecs, 3 dans la Gaule même, contre les Aquitains et les Bretons. En tout, 53 expéditions, parmi lesquelles celles qu'il poursuivit contre les Saxons, les Lombards et les Arabes, furent de longues et difficiles guerres. Je n'égare mes enfants de vous les raconter avec détail. Ce récit serait monotone et inutile. Mais je tiens à vous en faire bien connaître les causes, les incidents caractéristiques et les résultats. Vous avez déjà vu que sous les derniers règnes mérovingiens, les Saxons étaient sur la rive droite du Rhin, en lutte fréquente avec les Francs, surtout avec les Francs austrasiens dont ils menaçaient continuellement et envahissaient souvent le territoire. Pépin le Bref les avait plus d'une fois refoulés loin des frontières fort incertaines de l'Austrasie germanique. Devenu roi, il porta plus loin ses coups et entra à son tour dans la Saxe même. Malgré la courageuse résistance des Saxons, dit Egenhard, il pénétra à travers les points qu'ils avaient fortifiés pour lui fermer l'entrée de leur pays, et après avoir livré çà et là des combats dans lesquels périrent beaucoup de Saxons, il les força de promettre qu'ils se soumettraient à sa domination et que, chaque année, pour lui faire honneur, ils enverraient à l'Assemblée générale des Francs un présent de 300 chevaux. Ces conventions, une fois réglées, il voulut, pour en assurer l'exécution, les placer sous la sauvegarde des rites particuliers aux Saxons, puis il revint dans la Gaule avec son armée. Charlemagne ne se borna pas à reprendre l'œuvre de son père, il en changea bientôt le caractère et la portée. En 772, seul maître de la France après la mort de son frère Carloman, il convoqua à Worms l'Assemblée générale des Francs et prit, dit Egenhard, la résolution d'aller porter la guerre dans la Saxe. Il l'envahit sans délai, la ravagea par le fer et le feu, s'empara du fort d'Eresbourg et renversa l'idole que les Saxons nommaient Irmingsul. En quel lieu se passa cette première victoire de Charlemagne? Près des sources de la Lippe, là même où plus de 7 siècles auparavant, le Germain Arminius, ou Hermann, avait détruit les légions de Varus et où Germanicus était venu venger le désastre de Varus. Ce sol appartenait au territoire saxon, et cette idole, dite Irminsul, que renversa Charlemagne, était probablement un monument élevé en l'honneur d'Arminius, Hermann Saül, dont elle rappelait le nom. L'orgueil patriotique et héréditaire des Saxons fut passionnément irrité de ce coup. L'année suivante, croyant trouver dans l'absence du roi l'occasion la plus favorable, dit Egenhard, ils entrèrent sur les terres des Francs, les ravagèrent à leur tour, et rendant outrage pour outrage, ils mirent le feu à l'église élevée naguère à Fritzlar par saint Boniface, martyr. La question changea dès lors de but comme d'aspect. Ce n'était plus de la répression des invasions des Saxons en France, mais de la conquête de la Saxe par les Francs qu'il s'agissait. C'était entre le christianisme des Francs et le paganisme national des Saxons que s'engageait la lutte. Elle garda pendant 30 ans ce caractère. Charlemagne regardait la conquête de la Saxe comme indispensable pour mettre un terme aux incursions des Saxons et la conversion des Saxons au christianisme comme indispensable pour assurer la conquête de la Saxe. Les Saxons défendaient à la fois l'indépendance de leur patrie et les dieux de leur père. Il y avait là de quoi soulever et fomenter des deux parts les passions les plus profondes. Elles éclatèrent des deux parts avec un acharnement égal. Partout où Charlemagne pénétrait, il construisait des châteaux forts et des églises. Il laissait en partant des garnisons et des missionnaires. Quand il était parti, les Saxons revenaient, attaquaient les forts, massacraient les garnisons et les missionnaires. Dès le début de la lutte, un prêtre anglo-saxon d'origine et que l'évêque d'Utrecht, saint Willibrod, avait consacré naguère, saint Liebwin entreprit d'aller prêcher la foi chrétienne au cœur même de la Saxe, sur les bords du Weser, au milieu de l'Assemblée générale des Saxons. « Que faites-vous ? » leur dit-il, la croix à la main. « Les idoles que vous adorez ne vivent ni ne sentent. Elles sont l'ouvrage des hommes. Elles ne peuvent rien, ni pour elles-mêmes, ni pour personne. C'est pourquoi le seul Dieu bon et juste, ayant pris vos erreurs en pitié, m'envoie vers vous. » Si vous ne renoncez pas à l'iniquité, je vous annonce un malheur que vous n'attendez pas et que le roi des cieux a ordonné d'avance. Un prince fort, prudent, infatigable, viendra, non pas de loin mais de près, tomber sur vous comme un torrent, afin d'amollir vos cœurs toujours durs et de faire courber vos fronts orgueilleux. D'un seul effort, il envahira la contrée, il la dévastera par le fer et le feu, et il amènera vos femmes et vos enfants en esclavage. » Un frémissement de colère courait dans l'assemblée. Beaucoup d'assistants coupaient déjà dans les bois voisins des pieux qu'ils aiguisaient pour en percer le prêtre. L'un des chefs, nommé Buteau, s'écria « Écoutez, vous qui êtes les plus sages, il nous est venu souvent des ambassadeurs des peuples voisins, normands, slaves ou frisons. Nous les avons reçus en paix. Et après avoir entendu leur message, on les a renvoyés avec des présents. Celui-ci est l'ambassadeur d'un grand Dieu, et vous voulez le tuer. soit émotion, soit prudence, la foule se calma ou se contint, et cette fois le prêtre se retira sain et sauf. Autant la pieuse ardeur des missionnaires servait Charlemagne, autant la puissance de Charlemagne soutenait et quelquefois sauvait les missionnaires. La multitude, au milieu même de ses passions, n'est pas tout entière ni toujours inaccessible à la crainte. Les Saxons n'étaient pas une seule et même nation, constamment réunis dans une même assemblée et gouvernés par un seul chef. Trois populations de même race, distinctes par des noms empruntés à leur position géographique, ainsi que cela était arrivé parmi les Francs pour les Austrasiens et les Neustriens, les Saxons Osphaliens ou Orientaux, les Westphaliens ou Occidentaux et les Angriens formaient la Confédération Saxonne. Il s'y ajoutait même souvent une quatrième peuplade de même origine, plus voisine des Danois et dite les Nord-Albingiens, habitants de l'Elbe septentrionale. Ces quatre principales populations saxonnes se subdivisaient en un grand nombre de tribus qui avaient leur chef particulier et qui décidaient souvent, chacune pour son compte, de leur conduite et de leur sort. Habile à profiter de ce défaut de cohésion et d'unité chez ses ennemis, Charlemagne attaquait tantôt l'une, tantôt l'autre des grandes peuplades ou des petites tribus saxonnes et traitait séparément avec chacune d'elles selon qu'il les trouvait disposées à la soumission ou à la résistance. Après avoir, dans quatre ou cinq expéditions successives, remporté des victoires et subi des échecs, il se crut assez avancé dans sa conquête pour mettre ses rapports avec les Saxons à une grande épreuve. En 777, il résolut, dit Eginhard, d'aller tenir dans le lieu nommé Paderborn, voisin de la Saxe, l'assemblée générale de son peuple. Arrivé dans cette ville, il y trouva rassemblé le Sénat et le peuple de cette perfide nation qui, conformément à ses ordres, s'y était rendu, cherchant à le tromper par de faux serments de soumission et de dévouement. Ils méritèrent d'obtenir leur grâce, mais à cette condition toutefois, que si désormais ils rompaient leurs engagements, ils seraient privés de leur patrie et de leur liberté. Un grand nombre d'entre eux se firent baptiser en cette occasion, mais c'était avec des intentions bien peu sincères qu'ils avaient témoigné vouloir devenir chrétiens. Un chef saxon avait manqué à cette grande réunion, Witikin, fils de Wernekin, roi des Saxons du nord de l'Elbe. Il avait épousé la sœur de Siegfried, roi des Danois. Il était l'ami de Radbod, roi des Frisons. Vraiment chef de cœur comme de race, il était fait pour devenir le héros des Saxons, comme, 7 siècles auparavant, le chérusque Hermann, Arminius, avait été le héros des Germains. Au lieu de se rendre à Paderborn, Witikin avait quitté la Saxe et s'était réfugié chez son beau-frère, le roi des Danois. De là, il provoqua ses compatriotes saxons, les uns à persévérer dans la résistance, les autres à se repentir de leur soumission apparente. La guerre recommença et Witikin s'empressa de revenir y prendre part. En 778, les Saxons s'avancèrent jusqu'au Rhin, mais n'ayant pu traverser ce fleuve, dit Eginhard, ils se mirent à ravager par le fer et le feu toutes les villes et tous les villages, depuis la cité de Duitz en face de Cologne jusqu'au confluent de la Moselle. Les églises aussi bien que les maisons furent ruinées de fond en comble. L'ennemi, dans sa fureur, n'épargnait ni l'âge ni le sexe, voulant montrer par là qu'il avait envahi le territoire des Francs, non pas pour piller, mais pour se venger. Pendant 3 ans, la lutte continua, plus limitée, mais de plus en plus acharnée. Beaucoup de tribus saxonnes se soumirent, et beaucoup de Saxons furent baptisés. Le roi des Danois, Siegfried, envoya à Charlemagne des députés comme pour traiter de la paix. Witikin était sorti du Danemark, mais il avait passé chez les Normands, leurs voisins, et rentré de là en Saxe, il y ralluma une insurrection aussi violente qu'inattendue. En 782, 2 lieutenants de Charlemagne furent battus sur les bords du Weser et tués dans le combat avec 4 comtes et 20 des officiers les plus nobles de l'armée. Les Francs furent presque tous exterminés. À la nouvelle de ce désastre, dit Eginhard, Charlemagne, sans perdre un moment, rassembla une armée et partit pour la Saxe. Il fit venir devant lui tous les chefs des Saxons et leur demanda quels étaient les fauteurs de la révolte. Tous s'accordèrent à dénoncer Witikin comme l'auteur de cette trahison. Mais comme ils ne purent le livrer parce qu'aussitôt après ce coup de main, Il s'était réfugié chez les Normands. Ceux qui, à sa persuasion, avaient accompli le crime furent remis au nombre de 4 500 entre les mains du roi. Et, par son ordre, on leur trancha la tête à tous, le même jour, dans le lieu que l'on nomme Verden sur le fleuve Allaire. Après avoir accompli cette vengeance, le roi se retira à Thionville pour y passer l'hiver. La vengeance ne mit point fin à la guerre. Le sang appelle le sang, disait en 1643 dans le Parlement d'Angleterre Sir Benjamin Rudyard, l'un des meilleurs citoyens de son pays en révolution. Pendant 3 ans, Charlemagne eut à redoubler d'efforts pour accomplir en Saxe, au prix du sang des Francs comme des Saxons, son œuvre de conquête et de conversion. « Il faut, répétait-il souvent, que la Saxe soit chrétienne ou détruite. » Enfin, en 785, après plusieurs victoires qui semblaient décisives, il alla s'établir dans son château fort d'Hersbourg, où il fit venir sa femme et ses enfants, résolu d'y demeurer toute la mauvaise saison, dit Eginhard, et appliqué sans relâche à parcourir le pays des Saxons et à les lasser par son obstination puissante et infatigable. Mais l'obstination n'étouffait point en lui la prudence et l'habileté politique. Ayant appris que Witikind et Abion, autre grand chef saxon, se tenaient dans la partie de la Saxe située de l'autre côté de l'Elbe, il leur envoya des messagers saxons pour les déterminer à renoncer à leur perfidie et à venir sans hésitation se confier à lui. Ceux-ci, qui avaient la conscience de leurs attentats, n'osaient pas d'abord s'en remettre à la parole du roi, mais, ayant obtenu de lui la promesse d'impunité qu'ils désiraient, et de plus les otages qu'ils sollicitaient pour garant de leur sûreté et que leur amena de la part du roi à Malvine l'un des officiers de sa cour, ils vinrent avec ce seigneur se présenter au roi dans son palais d'Attigny, et là ils reçurent le baptême. Charlemagne fit plus qu'amnistier Witikind. Il le nomma duc de Saxe, mais sans attacher à ce titre aucun droit de souveraineté. Witikind, de son côté, fit plus que de venir à Attigny et de s'y faire baptiser. Il renonça à la lutte, resta fidèle à ses nouveaux engagements, et mena, dit-on, une vie assez chrétienne pour que quelques chroniques l'aient mis au rang des saints. Il fut tué en 807 dans un combat contre Gérold, duc de Souabe, et son tombeau se voit encore à Ratisbonne. Plusieurs familles souveraines d'Allemagne le tiennent pour leur ancêtre, et quelques généalogistes français ont même vu en lui, sans fondement solide, l'aïeul de Robert le Fort, bisaïeul de Hugues Capet. Quoi qu'il en soit, après la paix faite avec Witikind, Charlemagne eut encore, pendant plusieurs années, bien des insurrections à réprimer et bien des rigueurs à exercer en Saxe. Entre autres, la transplantation de quelques peuplades saxonnes hors de leur patrie et l'établissement de colons étrangers sur les territoires ainsi devenus vacants. Mais la Grande Guerre était terminée et Charlemagne put considérer la Saxe comme incorporée à ses états. Il eut encore en Germanie et tout alentour jusqu'à la fin de son règne bien des ennemis à combattre et bien des campagnes à recommencer, même parmi les populations germaniques qu'on regardait comme soumises au roi des Francs. Quelques-unes, les Frisons et les Bavarois, entre autres, s'agitaient toujours pour ressaisir leur indépendance. Plus loin, vers le nord, l'est et le sud, des peuples divers d'origine et de langage, les Avars, les Huns, les Slaves, les Bulgares, les Danois, les Normands, se pressaient encore ou déjà sur les frontières de l'État franc, tantôt pour y pénétrer, tantôt pour s'établir à sa porte en voisin puissant et redoutable. Charlemagne eut beaucoup à faire, tantôt pour repousser leurs incursions, tantôt pour détruire ou refouler au loin leurs établissements, et il porta dans cette seconde lutte sa vigueur et sa persévérance accoutumées. Mais par la conquête de la Saxe, il avait atteint son but national et direct. Le grand flot des populations d'Orient en Occident venait se briser contre l'État gallo-franco-germanique comme un inexpugnable rempart. Ce n'était point là, cependant, à cette époque, la seule grande entreprise de Charlemagne, ni la seule grande lutte qu'il eut à soutenir. Pendant qu'il combattait incessamment en Germanie, l'œuvre politique qu'avait commencée en Italie, Pépin son père, appela sa sollicitude et ses efforts. le nouveau roi des Lombards, Didier, et le nouveau pape, Adrien Ier, étaient de nouveau en guerre. Didier assiégeait Rome, que le pape et ses habitants défendaient avec énergie. En 773, Adrien invoqua le secours du roi des Francs, que ses envoyés allèrent trouver, non sans peine, à Thionville. Charlemagne ne pouvait abandonner la grande situation de protecteur de la papauté et patrice de Rome que lui avait légué son père. Les possessions que le roi Didier venait d'enlever au pape étaient précisément celles que Pépin avait conquises sur le roi Astolphe et dont il avait fait don à la papauté. Charlemagne était d'ailleurs, pour son propre compte, en mauvaise relation avec le roi des Lombards. Après avoir épousé Désirée, sa fille, il l'avait répudiée et renvoyée à son père pour épouser Hildegarde de la nation des Suèves. Didier, offensé, avait donné asile à la veuve et au fils de Carloman, dont Charlemagne surveillait les intrigues. Prudent et soigneux des apparences, même quand il se préparait à frapper un grand coup, Charlemagne essaya par des envoyés spéciaux d'obtenir du roi des Lombards ce que demandait le pape. Sur le refus de Didier, il se mit sur le champ à l'œuvre, convoqua à Genève, dans l'automne de 773, l'Assemblée des Francs et décida, non sans rencontrer quelques objections, à l'expédition d'Italie et entra aussitôt en campagne avec deux armées. L'une devait traverser le Valais et descendre en Lombardie par le mont Saint-Bernard. Charlemagne lui-même conduisit l'autre par le mont Senis. Les Lombards lui opposèrent, à la sortie des gorges des Alpes, une vigoureuse résistance. Les Francs avaient quelque peine à la surmonter, mais lorsque leur seconde armée eut pénétré en Italie par le Saint-Bernard, Didier, menacé sur ses derrières, se retira précipitamment et, poussé de poste en poste, il fut obligé d'aller se renfermer dans Pavie, la plus forte place de son royaume, où Charlemagne, après avoir reçu en route la soumission des principaux comtes et de presque toutes les villes de la Lombardie, vint promptement l'assiéger. « Je veux mettre textuellement sous vos yeux, mes enfants, un fragment d'une ancienne chronique qui vous fera connaître, mieux que toute description moderne, l'impression d'admiration et de crainte que faisait sur ses contemporains Charlemagne, sa personne et sa puissance. À la fin de ce IXe siècle, un moine de l'abbaye de Saint-Gall, en Suisse, avait recueilli, de la bouche même de l'un des guerriers de Charlemagne, Adalbert, de nombreux récits de ses campagnes et de sa vie. Ces récits sont chargés de légendes fabuleuses, d'anecdotes puériles, de souvenirs défigurés, d'erreurs chronologiques, et ils sont écrits quelquefois avec une crédulité et une exagération de langage qui font sourire. Mais ils révèlent l'état des esprits et des imaginations autour de Charlemagne et à sa vue. Ce moine raconte naïvement l'arrivée de Charlemagne devant Pavie et l'inquiétude du roi des Lombards à son approche. Didier avait alors auprès de lui l'un des plus célèbres compagnons de Charlemagne, Ogier le Danois, et qui tient une grande place dans les romans et les épopées chevaleresques de cette époque. Ogier avait eu quelques querelles avec son grand chef et s'était réfugié auprès du roi des Lombards. Il est probable que son origine danoise et ses relations avec le roi des Danois, Gottfried, longtemps l'ennemi des Francs, n'avait pas été sans influence sur sa brouillerie avec Charlemagne. Quoi qu'il en soit, quand Didier et Ogier, ainsi l'appelle le moine, apprirent que le redoutable monarque venait, ils montèrent sur une tour très élevée, d'où ils pouvaient le voir arriver de loin et de tous côtés. Ils aperçurent d'abord des machines de guerre, telles qu'il en aurait fallu aux armées de Darius ou de Jules César. « Charles, demanda Didier à Ogier, « n'est-il pas avec cette grande armée ?»« Non, » répondit celui-ci. Le Lombard, voyant ensuite une troupe immense de simples soldats assemblés de tous les points de notre vaste empire, finit par dire à Ogier, « Certes, Charles s'avance triomphant au milieu de cette foule !»« Non, pas encore, il ne paraîtra pas de sitôt, » répliqua l'autre. « Que pourrions-nous donc faire ?» reprit Didier, qui commençait à s'inquiéter, « s'il vient accompagné d'un plus grand nombre de guerriers ?» « Vous le verrez tel qu'il est quand il arrivera, » répondit Ogier. « Mais pour ce qui sera de nous, je l'ignore. Pendant qu'il discourait ainsi, parut le corps des gardes, qui jamais ne connaît de repos. À cette vue, le Lombard, saisi d'effroi, s'écria « Pour le coup, c'est Charles !»« Non, reprit Auger, pas encore. » À la suite vinrent les évêques, les abbés, les clercs de la chapelle royale et les comtes. Alors Didier, ne pouvant plus supporter la lumière du jour ni braver la mort, cria en gémissant « Descendons et cachons-nous dans les entrailles de la terre, loin de la face et de la fureur d'un si terrible ennemi !» Auger, tremblant, qui savait par expérience ce qu'étaient la puissance et les forces de Charles, et qu'il avait appris par une longue habitude dans un meilleur temps, dit alors « Quand vous verrez les moissons s'agiter d'horreur dans les champs, le sombre Pô et le Tésin inonder les murs de la ville de leurs flots noircis par le fer, alors vous pourrez croire à l'arrivée de Charles. » Il n'avait pas fini de dire ces paroles qu'on commença de voir au couchant comme un nuage noir soulevé par le vent du nord-ouest ou boré qui convertit le jour le plus clair en ombres horribles. Mais l'empereur rapprochant de plus en plus, l'éclat des armes fit luire, pour les gens enfermés dans la ville, un jour plus sombre que toute espèce de nuit. Alors parut Charles lui-même, cet homme de fer, la tête couverte d'un casque de fer, les mains garnies de gantelets de fer, sa poitrine de fer et ses épaules de marbre défendues par une cuirasse de fer, la main gauche armée d'une lance de fer qu'il soutenait élevée en l'air, car sa main droite, il la tenait toujours étendue sur son invincible épée. L'extérieur des cuisses, que les autres, afin d'avoir plus de facilité pour monter à cheval, dégarnissaient même de courroies, il l'avait entouré de lames de fer. Que dirais-je de ses bottines ? Toute l'armée était accoutumée à les porter constamment de fer. Sur son bouclier, on ne voyait que du fer. Son cheval avait la couleur et la force du fer. Tous ceux qui précédaient le monarque, tous ceux qui marchaient à ses côtés, tous ceux qui le suivaient, tout le gros même de l'armée avait des armures semblables, autant que les moyens de chacun le permettaient. Le fer couvrait les champs et les grands chemins. Les pointes du fer réfléchissaient les rayons du soleil. Ce fer si dur était porté par un peuple d'un cœur plus dur encore. L'éclat du fer répandit la terreur dans les rues de la cité. Que de fer, hélas, que de fer ! Tels furent les cris confus que poussèrent les citoyens. La fermeté des murs et des jeunes gens s'ébranla à la vue du fer, et le fer paralysa la sagesse des vieillards. Ce que moi, un pauvre écrivain bégayant et édenté, j'ai tenté de peindre dans une traînante description. Auger l'aperçut d'un coup d'œil rapide et dit à Didier « Voici ce que vous cherchez avec tant de peine. » Et en proférant ces paroles, il tomba presque sans vie. Le moine de Saint-Gall fait tort au roi Didier et à son peuple. Ils furent plus fermes et plus vaillants qu'il ne les peint. Ils résistèrent obstinément à Charlemagne et repoussèrent ses premiers assauts, si bien qu'il convertit le siège en blocus et s'établit devant Pavie, comme s'attendant à y rester longtemps. Son camp devint une ville. Il y fit venir la reine Hildegarde avec sa cour. Il y fit construire une chapelle où il célébra les fêtes de Noël. Mais le printemps venu, à l'approche des fêtes de Pâques en 774, lassé de la longueur du blocus, il laissa à ses lieutenants le soin de le maintenir et, suivi d'un nombreux et brillant cortège, il partit pour Rome où le pape le pressait instamment de venir. Le samedi saint, 1er avril 774, Charlemagne trouva, à 3 000 de Rome, les magistrats et la bannière de la ville que le pape avait envoyée au-devant de lui. À 1 000, toutes les corporations municipales et les élèves des écoles portant des palmes et chantant des hymnes, et à la porte de la ville la croix qui ne sortait que pour les exargues et les patrices. Devant la croix, Charlemagne descendit de cheval, entra dans Rome à pied, monta l'escalier de l'ancienne basilique de Saint-Pierre, en répétant à chaque marche un témoignage de piété respectueuse, et il fut reçu au haut du perron par le pape lui-même. On chantait tout autour et dans les rues « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Dès son entrée et pendant son séjour à Rome, Charlemagne y donna les marques les plus éclatantes de sa foi chrétienne et de son respect pour le chef de l'Église. Selon la coutume des pèlerins, il visita toutes les basiliques et fit, dont celle de Sainte-Marie-Majeure, ses dévotions solennelles. Puis, passant aux affaires temporelles, il se fit apporter et relire dans ses conférences particulières avec le pape la donation territoriale que Pépin, son père, avait faite à Étienne II, et il en dicta lui-même la confirmation, en y ajoutant un nouveau don de quelques-uns des territoires qu'il était en train de conquérir sur les Lombards. Le pape Adrien, de son côté, lui rendit avec une dignité affectueuse tous les honneurs et tous les services qui pouvaient satisfaire et élever à la fois le roi et le prêtre, le protecteur et le protégé. Il fit présent à Charlemagne d'un livre contenant le recueil des canons écrits par les pontifes depuis l'origine de l'Église, et il mit en tête de ce livre, dédié à Charlemagne, une épître en 45 vers irréguliers, écrite de sa main, qui formait un anagramme. Le pape Adrien à son excellent fils Charlemagne, roi. Domino excellentissimo filio Carolo Magno regi Adrianus papa. En même temps, il l'invita à pousser jusqu'au bout sa victoire et à se faire roi des Lombards, mais en lui conseillant de ne pas incorporer sa conquête dans l'état franc, ce qui blesserait l'orgueil du peuple vaincu, ainsi absorbé par ses vainqueurs, et de s'intituler simplement « roi des Francs et des Lombards ». Charlemagne comprit et accepta ce sage conseil. Il savait garder des mesures dans l'ambition et dans la victoire. Il fit même 3 ans après plus que ne lui avait conseillé le pape Adrien. En 777, la reine Hildegarde lui donna un fils, Pépin, qu'en 781, Charlemagne fit baptiser et sacré roi d'Italie à Rome par le pape, séparant ainsi non seulement les 2 titres, mais les 2 royaumes, et rendant aux Lombards une existence nationale, bien sûr que, tant qu'ils vivraient, l'unité de ces divers États ne serait pas en péril. Après avoir ainsi réglé à Rome ses affaires et celles de l'Église, il retourna à son camp, prit Pavie, reçut la soumission de tous les ducs et comtes lombards, sauf un seul, Arégis, duc de Bénévente, et il entra en France, emmenant prisonnier le roi Didier, qu'il relégua dans un monastère, d'abord à Liège, puis à Corbie, où le Lombard détrôné, disent les chroniqueurs, finit saintement ses jours. Le prompt succès de cette guerre en Italie, sur l'appel du chef de l'Église, ce premier séjour de Charlemagne à Rome, les spectacles auxquels il y assista et les hommages qu'il y reçut, exercèrent sur lui, sur ses desseins, ses actes, une puissante influence. Ce rude guerrier franc, chef d'un peuple qui commençait à paraître avec éclat sur la scène du monde et issu lui-même d'une race nouvelle, avait le goût de ce qui était grand, splendide, ancien, consacré par le temps et le respect public. Il comprenait et estimait à toute sa valeur la puissance morale et l'importance de tels alliés. Il partit de Rome en 774, plus décidé que jamais à dompter la Saxe au profit de l'Église chrétienne comme de son propre pouvoir et à poursuivre au midi comme au nord le triomphe de l'État franc et chrétien. 3 ans après, en 777, il avait convoqué à Paderborn, en Westphalie, cette assemblée générale de ces divers peuples à laquelle ne se rendit pas Witiking, et qui devait amener contre les Saxons une guerre de plus en plus acharnée. Le Sarrasin Ibn al-Arabi, dit Eginhard, vint dans cette ville se présenter devant le roi. Il arrivait d'Espagne, avec d'autres Sarrasins, ses compagnons, pour se donner au roi des Francs, avec toutes les villes dont le roi des Sarrasins lui avait confié la garde. Depuis longtemps déjà, les chrétiens d'Occident donnaient aux musulmans, arabes ou autres, le nom de Sarrasins. Ibn al-Arabi était gouverneur de Saragosse et l'un des chefs arabes espagnols en conspiration contre Abdelrahman, le dernier rejeton des califes omniades qui, avec l'appui des berbères, s'était emparé du gouvernement de l'Espagne. Au milieu des désordres de son pays et de sa nation, Ibn al-Arabi appela à son aide contre Abdelrahman les Francs et les chrétiens, comme naguère Moronte, le duc d'Arles, avait appelé en Provence contre Charles Martel les Arabes et les musulmans. Charlemagne accepta avec empressement cette provocation. Dès le printemps de l'année suivante, 778, et avec le plein assentiment de ses principaux guerriers, il se mit en marche vers les Pyrénées, passa la Loire et s'arrêta à Casseuil, au confluent du Drop et de la Garonne, pour y célébrer les fêtes de Pâques et préparer de là son expédition. Comme il l'avait fait naguère pour sa campagne en Italie contre les Lombards, il divisa ses forces en deux armées, l'une formée d'Austrasiens, de Neustriens, de Bourguignons et de divers contingents germains, et commandée par Charlemagne lui-même, devait entrer en Espagne par la vallée de Roncevaux, dans les Pyrénées occidentales, et se diriger sur Pampelune. L'autre, composé de Provençaux, de Septimaniens, de Lombards et d'autres populations du Midi sous le commandement du duc Bernard, qui s'était déjà distingué en Italie, avait ordre de pénétrer en Espagne par les Pyrénées orientales, de recevoir dans sa route la soumission de Gérone et de Barcelone, et de ne s'arrêter que devant Saragosse, où les deux armées devaient se rejoindre et qu'Ibn al-Arabi avait promis de livrer au roi des Francs. Dans ce plan, Charlemagne avait à traverser les territoires de l'Aquitaine et de la Vasconie, domaine du duc Loup II, fils du duc Vefre, si longtemps l'adversaire de Pépin le Bref, mérovingien de race et à tous ses titres peu favorables à Charlemagne. Cependant, le passage s'accomplit sans difficulté. Le roi des Francs traita bien son puissant vassal. Le duc Loup lui jura de nouveau, ou pour la première fois, dit M. Fauriel, soumission et fidélité. Mais l'événement prouva bientôt que ce n'était pas sans ombrage, ni sans tous les sentiments d'un digne fils de Vefre qu'il voyait les Francs et les fils de Pépin si près de lui. La campagne agressive fut facile et brillante. Charlemagne entra avec son armée en Espagne, par la vallée de Roncevaux, sans rencontrer aucun sérieux obstacle. À son arrivée devant Pampelune, le gouverneur arabe lui rendit la place et Charlemagne poussa vivement sa marche sur Saragosse. Mais là, la fortune changea. La présence des étrangers et des chrétiens sur le sol de l'Espagne suspendit les discordes intérieures des Arabes. De toutes parts, ils se levèrent en masse pour secourir Saragosse. Les assiégés se défendirent opiniâtrement. Les vivres manquaient aux assiégeants, encore plus que dans la place. Les maladies les gagnaient. Ils étaient incessamment harcelés du dehors. Le bruit d'un nouveau soulèvement des Saxons arriva à Charlemagne. Les Arabes demandèrent à négocier, pour déterminer le roi des Francs, à abandonner le siège. Ils lui offrirent une immense quantité d'or, disent les chroniques, des otages, des promesses d'hommage et de fidélité. Les apparences étaient sauves. Charlemagne pouvait dire, peut-être même croire, qu'il avait poussé ses conquêtes jusqu'à l'Èbre. Il se décida à la retraite. Toute l'armée se mit en marche pour repasser les Pyrénées. Arrivé devant Pampelune, Charlemagne en fit raser complètement les murs, afin, dit-il, que cette cité ne puisse se révolter. Les troupes entrèrent dans ces mêmes gorges de Roncevaux qu'elles avaient traversées sans obstacle quelques semaines auparavant. L'avant-garde et le gros corps d'armée en étaient déjà sortis. Je prends ici le texte d'Eginhard, le seul historien contemporain dont le récit, exempt de toute exagération, puisse être considéré comme authentique. Le roi, dit-il, ramena son armée sans avoir éprouvé aucune perte, si ce n'est toutefois qu'au sommet des Pyrénées, il eut un peu à souffrir de la perfidie des Vascons, c'est-à-dire des Basques, tandis que l'armée des Francs, engagée dans un étroit défilé, était obligée, par la nature du terrain, de marcher sur une ligne longue et resserrée, les Basques, qui s'étaient embusqués sur la crête de la montagne, car l'épaisseur des forêts dont ces lieux sont couverts favorise les embuscades, descendent et se précipitent tout à coup sur la queue des bagages et sur les troupes d'arrière-garde chargées de couvrir tout ce qui précédait et les culbutent au fond de la vallée. Ce fut là que s'engagea un combat où les Francs périrent jusqu'au dernier. Les Basques, après avoir pillé les bagages, profitèrent de la nuit qui était survenue pour se disperser rapidement. Ils durent en cette rencontre tout leur succès, à la légèreté de leurs armes et à la disposition des lieux où se passa l'action. Les Francs, au contraire, pesamment armés et placés dans une situation défavorable, luttèrent avec trop de désavantages. Eginhard, maître d'hôtel du roi, Anselme, comte du Palais, et Roland, préfet des Marches de Bretagne, périrent dans ce combat. Il n'y eut pas moyen, dans le moment, de tirer vengeance de cet échec, car après ce coup de main, L'ennemi se dispersa, si bien qu'on ne put recueillir aucun renseignement sur les lieux où il aurait fallu le chercher. L'histoire n'en dit pas davantage, mais la poésie des peuples a la mémoire plus fidèle et plus longue que la cour des rois. Le désastre de Roncevaux et l'héroïsme des guerriers qui y succombèrent devinrent en France l'objet de la sympathie et le chant favori de l'imagination populaire. La chanson de Roland, vrai poème homérique par sa beauté grande, rude et simple comme par son caractère national, atteste l'importance prolongée que garda en Europe cet incident de l'histoire de Charlemagne. 4 siècles plus tard, les compagnons de Guillaume le Conquérant, marchant à la bataille de Hastings pour s'emparer de l'Angleterre, entonnaient la chanson de Roland pour se préparer à vaincre ou à mourir, dit M. Vité dans sa vive appréciation et son habile traduction de ce monument poétique des mœurs et des premiers élans chevaleresques du Moyen-Âge. On ne saurait déterminer quelle part il faut faire à l'histoire dans ses souvenirs de l'émotion nationale, mais à coup sûr les figures de Roland, d'Olivier, de l'archevêque Turpin et le caractère pieux, rude et tendre de leur héroïsme ne sont pas de pures légendes inventées par la fantaisie d'un poète ou la crédulité d'un moine. S'il n'y faut pas chercher l'exactitude d'un récit historique, il faut y reconnaître la vérité morale du portrait d'un peuple et d'un siècle. Le génie politique de Charlemagne comprit mieux la gravité de l'incident de Roncevaux que ne le ferait penser le récit bref et sec de son panégyriste. Non seulement il en prit une vengeance immédiate en faisant pendre le duc Loup d'Aquitaine, dont la trahison lui avait attiré cet échec, et en réduisant ses deux fils, Adalric et Sanche, à une condition plus faible et plus précaire. Il résolut de traiter l'Aquitaine comme il avait traité naguère l'Italie, c'est-à-dire d'en faire, selon la juste définition de M. Fauriel, un royaume particulier, portion intégrante de l'Empire franc, mais ayant une existence personnelle, une destination propre, celle de résister aux invasions des Arabes andalousiens et les resserrer le plus possible sur le sol de la péninsule. C'était là, en quelque sorte, rendre à ce pays sa tâche première comme duché indépendant. C'était le moyen le plus naturel et le plus sûr de faire des Aquitains des sujets utiles en laissant un certain jeu à leur vanité nationale, à leur prétention de former un peuple à part et même à l'espoir de redevenir tôt ou tard un peuple indépendant. Pendant son séjour à Casseneuil en 778, la reine Hildegarde avait donné à Charlemagne un fils qu'il appela Louis et qui fut, après lui, Louis le Débonnaire. Appelé à Rome une seconde fois, en 781, par les querelles du pape Adrien Ier avec la cour impériale de Constantinople, Charlemagne y amena avec lui ses deux fils, âgés seulement Pépin de 4 ans, Louis de 3 ans, et il les fit sacrer par le pape, le premier roi d'Italie, le second roi d'Aquitaine. Revenu de Rome en Austrasie, Charlemagne envoya aussitôt Louis prendre possession de son royaume. Des bords de la Meuse à Orléans, le petit prince fut porté dans son berceau. Mais une fois sur la Loire, cette manière de voyager ne lui convenait plus. Ses conducteurs voulaient que son entrée dans les États eût une apparence virile et guerrière. On le revêtit d'armes proportionnées à sa taille et à son âge. On le mit et on le tint à cheval, et ce fut dans cet attirail qu'il entra en Aquitaine. Il y venait accompagné des officiers qui devaient former son conseil de tutelle. Homme choisi avec soin par Charlemagne parmi les leudes francs, distingué non seulement pour la bravoure et la fermeté, mais aussi pour l'adresse, et tel qu'il les fallait, pour n'être ni trompé ni effrayé par les populations rusées, mobiles et turbulentes auxquelles ils allaient avoir affaire. Depuis cette époque, jusqu'à la mort de Charlemagne, et par son influence souveraine en même temps que sous le nom de son fils, le gouvernement de l'Aquitaine fut une série d'efforts continus pour refouler les Arabes d'Espagne au-delà de l'Èbre, étendre jusqu'à ce fleuve la domination franque, diriger vers ce but les forces comme les passions des populations de la Gaule méridionale, et poursuivre ainsi, au midi comme au nord, contre les Arabes comme contre les Saxons et les Huns, le grand dessein de Charlemagne, la répression des invasions étrangères et le triomphe de la France chrétienne sur le paganisme et l'islamisme asiatique. Quoique toujours obligé de veiller, et souvent encore de combattre, Charlemagne pouvait se croire près de son but. Il avait partout grandement reculé les frontières de l'État franc et dompté les populations comprises dans ses conquêtes. Il avait prouvé que ces frontières nouvelles seraient vigoureusement protégées contre de nouvelles invasions ou de dangereux voisinages. Il avait poursuivi les Huns et les Slaves jusque sur les confins de l'Empire d'Orient et les Sarrasins jusque dans les îles de Corse et de Sardaigne. Le centre de l'État n'était plus dans l'ancienne Gaule. Il l'avait transporté non loin du Rhin, au milieu et à la portée des populations germaniques, dans la ville d'Aix-la-Chapelle, qu'il avait fondée et où il se plaisait à résider. Mais les principales parties du royaume gallo-franc, l'Austrasie, la Neustrie et la Bourgogne, étaient efficacement fondues en un seul corps. Je viens de dire ce qu'il avait fait de la Gaule méridionale et comment il l'avait à la fois séparée de son propre royaume et retenue sous sa main. Deux expéditions dans l'Armorique, sans enlever tout à fait aux Bretons leur indépendance, leur avaient imposé une déférence efficace, et le grand guerrier Roland, placé comme comte sur leurs frontières, les avertissait du péril que rencontrerait leur soulèvement. La puissance morale de Charlemagne était au niveau de sa force matérielle. Il avait protégé partout les missionnaires du christianisme. Il était entré deux fois dans Rome, aussi à titre de protecteur, et il pouvait compter sur le fidèle concours du pape, autant au moins que le pape pouvait compter sur lui. Il avait reçu les ambassades et les présents des souverains de l'Orient, chrétiens ou musulmans, des empereurs de Constantinople et des califes de Bagdad. Partout en Europe, en Afrique et en Asie, il était redouté et respecté des rois et des peuples. Tels étaient pour lui, à la fin du 8e siècle, les résultats de ses guerres, des qualités supérieures qu'il avait déployées et des succès qu'il y avait obtenus et gardés. En 799, il reçut à Aix-la-Chapelle la nouvelle que de graves désordres avaient éclaté dans Rome, que le pape Léon III avait été assailli par des conspirateurs qui, après lui avoir arraché, disait-on, les yeux et la langue, l'avait enfermé dans le couvent de Saint-Érasme, d'où il s'était échappé à grand-peine, et qu'il s'était réfugié chez le duc de Spolt, Viginise, d'où il annonçait l'intention de se rendre auprès du roi franc. Léon III était déjà connu de Charlemagne. Dès son avènement au pontificat, en 795, il lui avait envoyé, comme aux patrices et aux défenseurs de Rome, les clés de la prison de Saint-Pierre et la bannière de la cité. Charlemagne se montra disposé à le recevoir avec autant de bienveillance que de respect. Le pape arriva en effet à Paderborn, y passa seulement quelques jours, selon Eginhard, et retourna à Rome le 30 novembre 799, tranquille sur son avenir, mais sans que personne sût ce qui avait pu être convenu entre le roi des Francs et lui. Charlemagne resta tout l'hiver à Aix-la-Chapelle, employa les premiers mois de l'année 800 à ses affaires dans la France occidentale, à Rouen, à Tours, à Orléans, à Paris, et revenu à Mayence au mois d'août, il annonça seulement alors à l'Assemblée générale des Francs son dessein de faire un voyage en Italie. Il s'y rendit en effet et arriva le 23 novembre 800 à la porte de Rome. Le pape l'y reçut au moment où il descendait de cheval. Puis, le lendemain, placé sur les marches de la basilique de Saint-Pierre et au milieu des cantiques universels, il introduisit le roi dans le sanctuaire du bienheureux apôtre, glorifiant et remerciant le Seigneur de cet heureux événement. Quelques jours furent employés à examiner les griefs qui avaient été imputés au pape et à recevoir deux moines venus de Jérusalem pour présenter au roi, avec la bénédiction du patriarche, les clés du Saint-Sépulcre et du Calvaire, ainsi que l'étendard sacré. Enfin, le 25 décembre 800, jour de la nativité de notre Seigneur, le roi, dit Eginhard, vint dans la basilique du bienheureux Saint-Pierre, apôtre, pour assister à la célébration de la messe. Au moment où, placé devant l'autel, il s'inclinait pour prier, le pape Léon lui mit une couronne sur la tête et tout le peuple romain s'écria « À Charles Auguste, couronné par Dieu, grand et pacifique empereur des Romains, vie et victoire !» Après cette proclamation, le pontife se prosterna devant lui et l'adora, suivant la coutume établie du temps des anciens empereurs. Et dès lors Charles, quittant le nom de Patrice, porta celui d'empereur et d'Auguste. Et Gina rajoute dans sa vie de Charlemagne « Le roi témoigna d'abord une grande aversion pour cette dignité, car il affirmait que, malgré l'importance de la fête, il ne serait pas entré ce jour-là dans l'église s'il avait pu prévoir les intentions du souverain pontife. Toutefois, cet événement excita la jalousie des empereurs romains de Constantinople, qui s'en montrèrent fort irrités. Mais Charles n'opposa à leur mauvaise disposition qu'une grande patience, et grâce à cette magnanimité qui les levait si fort au-dessus d'eux, il parvint, en leur envoyant de fréquentes ambassades et en leur donnant dans ses lettres le nom de frères, à triompher de leur opiniâtreté. Personne, je pense, ne crut au IXe siècle, et personne à coup sûr ne croira aujourd'hui, que Charlemagne fut d'avance étranger à ce qui se passa le 25 décembre 800 dans la basilique de Saint-Pierre. Je doute aussi qu'il fût sérieusement préoccupé de la mauvaise humeur des empereurs d'Orient. Il savait comprendre ce qui reste toujours de valeur aux vieilles traditions, et il put prendre quelques soins pour avoir leur adhésion à son titre d'empereur. Mais tous ses contemporains croyaient, et il croyait sans doute aussi lui-même, que ce jour-là, il avait bien réellement conquis et relevé l'Empire romain.